Vous êtes sur RTL.
Une banque pour vous.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal.
Bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
Tout d'abord, avez-vous des nouvelles du jeune homme qui s'est immolé par le feu à Lyon il y a 12 jours? Est-ce que vous savez dans quel état il se trouve?
Alors oui, évidemment, nous prenons des nouvelles très régulièrement. Il est toujours dans un état critique. Il est en coma artificiel pour pouvoir être soigné. Et évidemment, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour tous ses proches, sa famille, et que je tiens évidemment à assurer une fois de plus de tout mon soutien.
Vous avez pu les rencontrer, ses proches ?
Je ne les ai pas rencontrés personnellement. Je leur ai proposé de le faire, mais voilà, je veux aussi respecter leur choix de communiquer ou de ne pas communiquer. Je pense que c'est un drame humain extrêmement intime. Perdre un enfant, c'est toujours quelque chose de terrible. Voir son enfant se suicider, c'est terrible. Donc voilà, je suis à leur entière disposition et ce sera quand ils le souhaiteront.
Là, il est entre la vie et la mort.
Son état est stabilisé. Les 72 premières heures ont été effectivement extrêmement critiques. Là, son état est stabilisé, mais il reste très très gravement atteint. Oui.
Frédéric Vidal, vous vous étiez rendu sur place au lendemain de cette tentative de suicide avant de vous envoler en Arctique sur les bases de recherche françaises. Est-ce que vous avez obtenu des informations sur le cas précis de sa situation? On a appris que sa bourse lui avait été retirée parce qu'il triplait sa licence. Est-ce qu'il était informé qu'on allait lui retirer sa bourse?
Alors, informé qu'on allait lui retirer sa bourse, ça effectivement, il avait été informé de cela. J'ai demandé une inspection, en fait, de manière à comprendre exactement quelle était sa situation. Donc, en plus de l'enquête judiciaire, j'ai demandé à l'inspection générale de me remettre un rapport sur... Voilà, c'est sa condition particulière en termes de financement.
S'il travaillait, s'il avait un engagement à côté qui pouvait obérer ses chances de réussite à l'université.
Il avait un engagement syndical très très fort. Hein. Il était
qui prenait beaucoup de place donc.
Qui prenait probablement de la place. Il était élu à la fois dans son conseil du FR et il était élu au conseil de l'université. Donc c'est un jeune qui a été décrit à la fois par ses professeurs, par la présidente de l'université, par tous les personnels que j'ai pu rencontrer, comme effectivement quelqu'un d'engagé, de constructif, avec lequel il était possible de discuter et d'avancer sur des sujets.
Mais d'une manière plus générale, quand un étudiant a des difficultés financières, qu'il est obligé de travailler à côté, ou bien s'il a un engagement syndical, mais qu'il se met en difficulté pour ses études, est-ce qu'à un moment, on ne doit pas le réorienter? Est-ce qu'il n'y a pas un processus d'accompagnement pour pas qu'on en arrive à des drames pareils?
Alors évidemment, ça c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est aujourd'hui autorisé avec le nouvel arrêté de licence, puisqu'on peut faire des parcours spécifiques pour ces jeunes engagés ou ces jeunes salariés, en leur prescrivant finalement des unités d'enseignement particulières, en reconnaissant aussi l'engagement étudiant qui apporte évidemment des compétences. Donc tout ça, c'est possible. Maintenant, une fois de plus, comme tout nouveau dispositif, puisque ça date de l'été 2018, il faut que les gens se l'approprient, le mettent en place, etc. Mais j'ai discuté avec la conférence des présidents d'université, justement, pour qu'on avance plus vite là-dessus, qu'on puisse mettre en place des bureaux d'aide psychologique.
Mais on est bien d'accord, Frédéric Vidal, qu'un engagement syndical ou même un travail à côté ne doit pas être plus important en termes de temps, ou en tout cas chronophage par rapport aux études qu'on est en train de faire.
Bien sûr que quand on est étudiant, le principal, c'est de réussir ses études. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'engagement étudiant, c'est aussi quelque chose qui est important. Parce
et qui construit.
Ça forge sa personnalité, ça construit. Et donc, il faut qu'on puisse, évidemment, travailler aussi sur ce statut d'étudiant engagé de manière plus formelle.
Et vous prévoyez un statut spécial, du coup?
Oui. On a déjà beaucoup avancé avec les organisations syndicales depuis 2 ans sur cette question de l'étudiant engagé, de la reconnaissance de l'engagement étudiant, de la reconnaissance des compétences que ça apporte.
C'est pour quand ?
C'est déjà autorisé dans les textes. Il faut simplement que ça devienne une réalité dans les faits, dans les établissements.
Alors Frédéric Vidal, les syndicats d'étudiants réclament de revaloriser les bourses. Est-ce qu'il faut donc les augmenter, ces bourses étudiantes ?
Alors en fait, nous venons d'augmenter les bourses étudiantes. Hein. Nous
1,1%.
Nous venons de remettre 46 millions d'euros supplémentaires sur les bourses étudiantes. Et moi, je pense qu'il faut être là dans le pragmatisme et dans l'efficacité. C'est 5,7 milliards d'euros en tout qui sont consacrés aux aides étudiantes sur le budget de l'État. Il y a les bourses sur critères sociaux, il y a aussi ce qu'on appelle les aides spécifiques, les aides d'urgence. Elles ne sont pas consommées en réalité.
C'est-à-dire ?
Elles sont sous-consommées, il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros d'aides d'urgence non consommées.
C'est-à-dire les étudiants ne vont pas chercher ces aides-là ?
Absolument, ça signifie que c'est trop compliqué.
Mais est-ce qu'on leur dit qu'ils ont ?
Bien sûr, on leur dit, mais visiblement on ne leur dit encore pas assez. Donc je veux vraiment mettre en place un numéro d'appel, embarquer les organisations syndicales pour qu'elles nous aident à repérer les jeunes en situation de précarité, de manière à ce qu'il y ait une véritable fonds d'aide d'urgence qui puisse être mobilisé par ces étudiants en situation de précarité. Voilà, ça c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui peut être fait tout de suite.
C'est pour quand ce numéro d'appel ?
C'est un numéro d'appel qui sera mis en place au plus tard à la fin de l'année, de manière à ce qu'il puisse y avoir ce numéro d'appel.
Fin d'année là maintenant, 2019.
Oui, pour prendre un rendez-vous, pour voir une assistante sociale. Mais une fois de plus, comme il y a des jeunes qui hésitent à passer par les assistantes sociales, qu'on travaille aussi avec les associations étudiantes pour qu'elles soient aussi le relais, et pas forcément des syndicats étudiants, mais vraiment des associations étudiantes. Les présidents d'université proposent aussi de créer des emplois étudiants spécifiques pour avoir des étudiants relais qui puissent parler à ceux qui se trouvent en situation de précarité et qui n'osent pas le dire. Il y a aussi beaucoup de retenue chez les étudiants qui n'osent pas souvent dire qu'ils sont dans une situation précaire et difficile.
Le logement, c'est aussi un problème. La vie chère, c'est aussi un problème. Combien on estime d'ailleurs le nombre d'étudiants en situation de précarité, pauvres ?
Alors, pour l'Observatoire de la vie étudiante, c'est à peu près 5% des étudiants qui sont en situation de précarité.
Ça fait combien ?
C'est sur 2,6 millions, donc voilà, c'est à peu près
5%
de 2,6 millions, hein, ça doit faire 125 000.
125 000 étudiants pauvres.
Et c'est justement à peine 50 000 qui demandent à bénéficier des aides d'urgence.
Dans ces aides d'urgence, il y a donc des aides au logement ? En plus,
il y a des aides. Ce sont des sommes d'argent qui sont données aux étudiants pour les aider dans là où ils en ont le plus besoin. On a un vrai sujet sur le logement, ça c'est très clair. On y a travaillé avec Julien de Normandie. La caution visale fonctionne extrêmement bien. C'est ce qui permet à des étudiants d'être cautionnés par Action Logement. Ils n'ont pas besoin d'avoir des cautions de leurs parents. On va faire en sorte que la trêve hivernale s'applique dans les cités universitaires, ça, dès à présent aussi.
C'est
une décision qui est prise. Ça veut dire qu'on ne peut pas expulser un étudiant d'une cité universitaire, puisque les cités universitaires, jusqu'à présent, n'étaient pas dans le droit commun.
Le journal La Croix nous apprend ce matin que le nombre d'étudiants a été multiplié par 9 depuis 1960. C'est pour ça que je vous posais la question du logement, parce que finalement, tout le monde, ou presque, a accès à des études, et tant mieux. Mais du coup, quand on est un étudiant à situation financière modeste et qu'on déboule dans une métropole, le logement étudiant coûte cher. Est-ce qu'il est question de construire des logements étudiants ?
Alors oui, le plan 60 000 que nous portons avec Julien de Normandie est en cours de déploiement. Il faut qu'on y travaille encore beaucoup plus fort, hein, puisque pour tenir ces engagements, il faut vraiment qu'on se mobilise tous. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une aide à la mobilité. Et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert des campus connectés partout sur le territoire pour que les jeunes puissent aussi étudier sans forcément être obligés de rejoindre les métropoles. On a un problème de concentration des jeunes dans les métropoles. On a un problème de hausse des loyers. Voilà, donc tous les efforts sont faits, y compris pour que maintenant les villes puissent encadrer les loyers.
Et la piste du revenu universel d'activité,
alors ça nous y travaillons avec la FAGE, avec l'UNEF depuis plusieurs mois, avec Gabriel Attal qui
donc
porte...
Donc ça regroupe toutes les aides, c'est ça ?
Absolument, et puis surtout, ce que nous avons proposé à la FAGE et à l'UNEF avec Gabriel Attal, c'est de tout remettre sur la table. les barèmes, les montants des bourses, qui peut en bénéficier, comment est-ce qu'on déclenche ces bourses et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une demande à faire pour bénéficier de toutes les aides existantes, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Frédéric Vidal, le Crous de Caen a été incendié dans la nuit de dimanche à lundi. La grille de votre ministère avait été arrachée. François Hollande avait été empêché de tenir une conférence à Lille et son livre avait même eu des pages arrachées devant tout le monde. Les auteurs des violences, est-ce que vous les avez identifiés ?
Alors, ils sont pas identifiés nominativement. Là encore, hein, chaque fois, des enquêtes sont en cours. Moi, ce que je considère, c'est que ce jeune homme, en faisant cet acte, a très clairement voulu faire un acte à portée politique. Hein. On voit dans les écrits qu'il a laissés qu'il accuse tous les présidents de la République encore vivants, sauf Valéry Giscard d'Estaing, Marine Le Pen, les médias, l'Europe. Donc on sent qu'il a voulu faire de cet acte un acte politique. Moi, ce que je condamne, c'est la récupération par la violence qui en est faite. Parce que c'est pas parce qu'on va incendier un Crous qu'on va améliorer la vie des étudiants.
Vous pensez qu'ils veulent que la contagion gagne le 5 décembre contre la réforme des retraites ?
Moi, je pense que toute récupération politique d'un drame humain qui se traduit par des actions de violence est à condamner.
Merci beaucoup, Frédéric
Merci à
Vidal.
Vous.
Frédéric Vidal qui annonce sur RTL la mise en place d'un numéro d'appel pour l'utilisation des 15 millions d'aides à charge non utilisées par nos étudiants. Entretien à retrouver en vidéo sur le site rtl.fr. Assure.